Bonjour à tous, c'est l'heure de l'AM, l'émission sur Radio Évasion. C'est mercredi et comme c'est le cas une fois par mois, on retrouve Fred et ses invités. On parle de sport aujourd'hui et on découvre un sport, c'est le foot gaélique.
L'AM, l'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure des évadés du sport, votre rendez-vous mensuel où on parle de sport, mais pas que. Et comme d'habitude, pour animer ce rendez-vous, on retrouve Fred Sevaer. Bonjour Fred.
Bonjour.
Alors qui est ton invité ce midi?
J'en ai pas un, j'en ai trois.
Il y en a plein.
Alors c'est trois invités qui nous viennent du football, Gaelic Football Club de Bro-Léon, c'est ça? Donc Brieux, Pilou et Rod.
Tout voilà. À fait. Très bien. Alors, on va parler de foot gaélique dans quelques instants. Mais avant, on va peut-être donner des nouvelles de notre précédent invité, Tuc Dual et le Vélo Tech Tour. Alors, leur projet, pour rappel, c'était de partir faire un tour d'Europe à vélo pour partir à la rencontre des démarches low-tech. Alors, tu as eu des nouvelles?
Oui, j'ai pris contact avec eux et du coup, je voulais leur petit message à l'attention des auditeurs. On se situe actuellement près de la ville de Pula en Croatie et nous commencerons la traversée des îles croates après-demain. En termes de cadence, on est un peu en dessous de ce qu'on avait prévu, mais ça nous permet de profiter, de rencontrer des locaux et de ne pas trop se cramer trop tôt. Le compteur avoisine 1500 km pour un mois. On reste dans les clous pour les 7500 en 5 mois. Pour l'instant, nous n'avons répertorié que deux low-tech et nous envisageons de visiter un éco-village en Croatie et en Bulgarie. Sinon, pas de casse matériel majeur, nous restons en bonne condition physique et les premières pluies de nos périples sont prévues dans quelques jours. Si tu veux d'autres infos, t'hésites pas, tu nous contactes.
Donc, on va le faire. Hein.
On suit jusqu'à la fin, quoi.
C'est ça. Donc, ils sont partis il y a combien de temps? Il y a un mois à peu près.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, pour que les gens imaginent un petit. Ils ont un peu triché. Ils sont pas partis techniquement de Brest. Ils sont partis des Alpes, hein, de Chambéry, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça. Ils avaient pris un petit transport.
Et ils sont en Croatie maintenant. Ça va.
Après,
1500 km en un mois. Je suis pas prêt.
Je le fais pas.
Très bien. Alors, on va reprendre de leurs nouvelles un peu plus tard, mais on va tout de suite aller sur notre sujet du jour. Donc, on va parler foot gaélique avec nos trois invités autour de la table. On va parler d'un club, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est
et
le
d'un
club
sport.
Ouais, c'est le club de Brest, donc qui pratique le football gaélique. Donc, c'est bien ça.
Bah ouais.
Jusque-là, en avant.
A priori,
c'est
bon.
C'est le club brestois de foot gaélique, on peut dire ça comme ça.
Même du pays de Léon.
Du
pays de Léon.
Ouais. Du Léon,
c'était l'ambition à la base, non?
Ouais.
C'est ça, donc toi, Pilou, tu es le président et joueur du club.
Ouais.
Rod, lui, c'est l'instagrammeur, si j'ai bien compris, c'est ça?
Non,
et aussi coach.
C'est plus coach et joueur, et autrement, je donne un coup de main en communication ou sur des visuels quand j'ai le temps aussi, puisque ce problème du bénévolat, c'est qu'on a toujours plein de choses à faire.
Ouais, c'est ça, et il y a aussi donc Brieux, toi tu es trésorier et tu es aussi arbitre.
C'est ça, arbitre pour le club et puis responsable arbitre pour toute la France. Donc pareil, comme disait Rod, c'est vrai que le bénévolat dans des petites structures, ça demande beaucoup de temps et d'être un peu multitâche.
Alors ce qui est bien, là, quand on parle de foot gaélique, c'est qu'on a quelqu'un qui a bien assimilé les règles. C'est important de le rappeler. T'es arbitre?
Ouais.
on reparlera des règles justement. Alors si on essaie de découvrir ce sport que peu de gens connaissent finalement, mais c'est un sport qui est numéro un en Irlande par exemple, ou en tout cas parmi les sports les plus pratiqués aussi.
Non, t'as complètement raison. C'est le sport numéro un en Irlande, le plus le plus suivi, pratiqué, celui qui déchaîne les passions quoi.
Avant le foot, le rugby, tout ça.
Ouais, bien sûr.
Ouais, ouais.
C'est le côté un peu identitaire irlandais aussi dans la création du sport. Ça s'est monté pour avoir un football, mais qui n'est pas le football anglais à proprement parler. Et voilà, qu'on se sépare un petit peu de l'Angleterre.
Pour l'expliquer un peu aux auditeurs, ça ressemble à quoi un match de foot gaélique? Parce que en gros, c'est un combo de plein de sports. C'est qui croise le rugby, le foot.
Ouais, vulgairement, on dit ça, que c'est un mélange de foot, rugby, handball aussi un petit peu, parce que ça se porte pas mal à la main. Donc, à quoi ça ressemble un match? En Bretagne, nous, on joue à 9 contre 9 pour recréer à peu près la densité qu'il y a en Irlande, parce qu'en Irlande, ils jouent à 15 contre 15, mais sur un terrain qui est énorme. C'est Brieux.
135, 140 mètres de long sur 70, 80 mètres de large. Donc,
c'est un peu plus grand.
Côte à côte, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est énorme.
Ouais, c'est beaucoup plus grand. Les terrains sont gigantesques là-bas.
Du coup, nous, on joue à 9 contre 9 sur un terrain de foot. Grosso modo, il y a un but de foot, même si normalement il doit être un petit peu plus petit, qui est surmonté de poteaux de rugby. Comme dans plein de sports co et des sports de balle, le but c'est de marquer plus que l'adversaire, hein, logiquement. Et donc si on marque dans le but de foot, ça vaut 3 points. Si on marque entre les perches de rugby au-dessus de la barre transversale, ça vaut 1 point. Il n'y a pas de hors-jeu aussi, c'est une grosse différence avec le foot, et ce qui fait que ça, en fait, pour répondre à ta question initiale, c'est à quoi ça ressemble, c'est un sport qui va vite, qui va très très vite en attaque. D'ailleurs, les règles, tu as peut-être pas me contredire, Brieux, avantage quand même clairement l'attaque. On n'est pas vraiment sur...
S'il n'y a pas de hors-jeu, on peut dire que tu peux être un vrai renard des surfaces en permanence. Quoi.
Voilà, moi je pars du principe que si tu n'as pas de hors-jeu, que tu n'as pas de plaquage et de ceinturage autorisé comme tu peux avoir en rugby ou handball, c'est quand même que les règles avantagent grosso modo l'attaque. Donc normalement, tu t'attends à voir le ballon qui va un peu vite d'un bout à l'autre du terrain, et beaucoup de buts et beaucoup de tirs.
Gros
droit.
Spectacle.
Ouais.
Et donc ça se joue avec un ballon de type ballon de football, c'est ça ?
Alors je me tourne vers l'arbitre, comme ça on va avoir le poids officiel, etc. La circonférence.
Non, ce sont des ballons ronds, type taille 5, comme pour d'autres sports. C'est légèrement plus lourd que les ballons de foot, mais...
C'est à peu près le poids d'un ballon de basket, en fait.
Ouais, à peu près, ouais. C'est vrai que c'est un peu plus lourd, mais quand c'est bien gonflé, après, en termes de passe, ça, c'est vrai que ça amène une certaine puissance, quoi. Les coups de pied, ça peut amener à des belles distances, ouais.
Donc ça se joue au pied, à la main, il y a des contacts autorisés, mais pas n'importe lesquels, je crois. Donc par exemple, c'est à l'épaule, il me semble, qu'on peut aller faire du contact.
Ouais, bah, explication des règles. Hein. Arbitre
toujours pareil, l'arbitre, on a un coach aussi qui peut dire aussi, hein, s'il y a besoin.
Non, mais l'arbitre fait ça très bien.
Non, les contacts autorisés sont de l'épaule contre épaule, donc ça peut être, mais sans limite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sacrés taquets, mais à l'épaule. On peut faire voler quelqu'un... etc. Mais dès lors que c'est épaule contre épaule, c'est autorisé. Mais dès lors que quelqu'un se penche, dès lors que quelqu'un est en train de tirer, dès lors que pour etc. Là, il n'y a plus le droit d'aller au contact. Il y a une protection quand même des joueurs. Et il y a même deux règlements bien distincts entre les masculins et les féminines. Et chez les féminines, il n'y a même pas l'épaule contre épaule. C'est une fédération autonome, les sports gaéliques irlandais. Et il n'y a même pas d'épaule contre épaule autorisée. Et c'est vrai que ce que disait Pilou juste avant, c'est que clairement l'attaque est favorisée, parce que dès lors qu'on a la possession du ballon, pour venir le récupérer, il faut venir jouer main ouverte pour essayer de récupérer, taper sur le ballon pour essayer de le récupérer. C'est pas évident. Et dès lors qu'on a la possession du ballon, on est quand même bien favorisé, quoi. Il faut être athlétique, quoi.
Petite précision, quand tu dis épaule contre épaule, on peut faire voler quelqu'un. On n'est pas non plus au foot américain, il faut jouer le ballon. Hein.
D'ailleurs, moi j'ai une question à une auditrice, donc Maëlle de Quimer, qui me posait la question: est-ce qu'il y a des protocoles commotion dans ce sport, par exemple, comme au rugby?
Ça arrive, c'est vraiment quelque chose qui se. Comme une, c'est un peu comme une traînée d'huile sur de l'eau, hein, cette histoire de commotion, parce que ça arrive cette année au niveau des règlements irlandais, donc ça, c'est en train de descendre, donc on est en train de voir, nous, à notre niveau, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place au niveau des matchs, parce qu'effectivement, ça rentre dans les protocoles. Maintenant, nous, sur les équipes médicales présentes, lors des tournois, ce qui n'est pas forcément le cas, etc., il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut adapter, parce que les arbitres, pour le coup, qui doivent gérer ça le jour d'un match, on n'est pas formés pour ça, savoir comment est-ce qu'on reconnaît une commotion, comment est-ce qu'on peut... Donc c'est en cours d'adaptation, parce qu'effectivement c'est tout neuf, et c'est vrai que ça va comme une traînée de poutre dans toutes
un
les fédérations sportives.
Un protocole qui doit sans doute s'inspirer un peu de ce qui se fait dans le rugby aussi, quoi.
Ouais, je pense qu'on va être autour de quelque chose là-dessus, parce que comme les règles viennent de Dublin, et même si toujours un peu de bisbille entre Irlandais et Britanniques, au niveau sport et au niveau culture, ils sont... C'est sur des protocoles, des choses comme ça, ils se rejoignent pas mal.
Justement, c'est l'occasion de reparler justement. Donc, il y a un board, donc il y a une organisation qui est donc irlandaise et qui chapeaute en gros une fédération, parce qu'il y a plusieurs pays dans lesquels ça se pratique. Alors, on peut peut-être les citer, mais combien de pays aujourd'hui pratiquent, et est-ce que l'organisation, du coup, comment, de qui vous dépendez, comment c'est foutu, cette histoire?
Il y a une fédération irlandaise donc, qui est la GAA et qui chapeaute l'ensemble des organisations mondiales parce que c'est eux qui régissent les réglementations, etc. Et après, sur chaque continent, le football gaélique est présent un peu partout dans le monde parce que la diaspora irlandaise est très présente partout. Il y a un championnat, il y a une équipe de New York qui fait partie intégrante du championnat irlandais. Ils ont un championnat à l'intérieur même de New York, de Boston, par exemple. Il y en a en Argentine. Et après, on peut retrouver en Chine, à Shanghai, à Abu Dhabi, etc. Il y a des équipes dans tous ces coins-là. Sauf que ce qui fait la particularité de ce développement international, c'est que ça se passe par la diaspora irlandaise, beaucoup par la culture, parce que c'est un pays qui a tendance, à, effectivement, par son histoire d'émigration, mais aujourd'hui aussi par la réalité des métiers de la banque, etc., où ils sont énormément présents. Il y a des Irlandais partout dans le monde. Et c'est vrai que tous ces clubs-là se construisent autour de cette communauté. Et ce qui fait la particularité de la France et de l'Espagne également, c'est que c'est un sport qui se développe, mais majoritairement par des non-irlandais. Par exemple, le club de Brest, c'est le premier club au monde qui a été créé exclusivement par des non-irlandais. Aujourd'hui, n'importe quel club dans le monde, on y va, c'est un pub, c'est parti d'un pub où des Irlandais se sont retrouvés pour dire « vas-y, on va créer un club, on va recréer notre petite communauté locale en passant par le sport, qui est ce sport-là qui est, comme on disait au début, le pilier culturel de la communauté ». Et c'est vrai qu'en France et en Espagne, en Galice en particulier, ce sont principalement des autochtones qui en font et c'est assez intéressant. Quoi.
Et si on veut voir du foot gaélique en vrai, certes, on peut venir vous voir, déjà d'une, ouais. Quand il y a compète. Mais après, en termes de médias, où est-ce qu'on peut voir du foot gaélique? Vous, quand vous voulez voir des matchs qui tapent en Irlande, comment vous faites?
Eh ben, nous, en fait, on les diffuse nous-mêmes. C'est-à-dire que la GAA, l'instance dont parlait Brieux tout à l'heure, l'instance irlandaise, a fait un peu comme ce qu'a fait la NBA. C'est-à-dire qu'ils ont développé ce qu'on appelle des League Pass, ce type de choses. Et donc, on peut acheter directement un truc qui s'appelle GAA Go, qui est voilà, l'équivalent d'un League Pass, et donc tu peux voir tous les matchs, tu peux voir des replays, etc., des matchs de l'année dernière. Et donc nous, on les diffuse, on fait une diffusion par mois à peu près à Brest, dans un pub partenaire, je ne sais pas si on peut le citer.
Mais tout à fait.
Le Tiernanog, voilà, qui est bien connu en bas de la rue de Siam.
Alors, justement, moi j'ai une autre question d'un autre auditeur, donc Ewen de Quimer. Est-ce que c'est. Il y a des professionnels, voire des stars dans ce sport, ou est-ce que c'est un sport amateur?
Ah, bonne question. Non, c'est effectivement un sport amateur. Ça a toujours été le but d'ailleurs, et c'est comme ça. En Irlande, c'est comme ça partout. Et d'ailleurs, tous les sports gaéliques, parce que là on parle du foot, mais en fait dans les sports gaéliques, il y en a quatre différents. Il y a aussi le camogie, qui est en fait le foot gaélique féminin.
C'est le hurling, donc il se joue avec une crosse, et le camogie, c'est le hurling, ouais, féminin. Donc le foot gaélique, c'est gars et filles. Le hurling, c'est l'équivalent, mais avec une crosse et avec une balle plus petite. Donc vraiment très, très typique encore, c'est quelque chose d'encore différent. Et il y a du handball gaélique aussi, qui est une sorte de, comme une pelote basque, ou alors du one wall, c'est avec la main ouverte et sur une balle. Et ça se joue beaucoup en Irlande et beaucoup en Amérique du Nord aussi.
Et tous ont cette particularité de respecter un statut amateur.
Tout à fait.
C'est la fierté de la GAA, c'est de mettre en avant, eux, dans leur com, que c'est la plus grosse fédé 100% amateur du monde.
Pourtant, il y a quand même des business plans assez conséquents. Il doit y avoir un peu de brassage d'argent quand même.
80 000 personnes, je crois, pour une finale, par exemple, en Irlande.
Ça peut sous-entendre que derrière, peut y avoir un modèle pro aussi, comme on peut voir dans d'autres sports, quoi.
Bah, en fait, oui, théoriquement, il pourrait. Hein. Effectivement, quand tu as rassemblé 81 personnes, tu pourrais très bien faire des produits dérivés, etc., etc., avoir du sponsoring. Mais c'est pas l'idée, et ça a toujours aussi été la vraie fierté de la GAA de se démarquer, de se dire non, on reste amateur. Et comme tu disais, Brieux, il y a des règles super strictes. En fait, sur le plus gros tournoi du monde, en fait, qui est le All Ireland, qui est vraiment là, si vous voulez voir les meilleures équipes, pour le coup, on parlait tout à l'heure de regarder, c'est ça qu'il faut regarder. En fait, les joueurs n'ont pas le droit de jouer pour un autre comté que leur comté de naissance.
C'est ça. Oui, c'est ça, c'est important ça aussi à dire, c'est qu'une fois qu'on est né quelque part, on y joue, quoi.
Logiquement. Ouais. Après, voilà.
C'est pareil, plus vous ne pouvez jouer que dans votre club. en France ou c'est un petit peu plus souple après, en tenant nous, compte nous, des mobilités des gens.
C'est un peu plus souple et il y a des systèmes de transfert ici. Enfin, de transfert, on peut transférer une licence si effectivement on est amené à travailler ailleurs, etc.
On parle pas de mercato là.
Il y a un brassage. Non, on n'est pas non plus dans du mercato. Mais,
non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il faut quand même un peu le justifier, le transfert. C'est-à-dire que, faut faire une demande à la GA, en fait, ça passe par D'accord. la GA, et un peu expliquer, dire, j'ai changé de ville, j'ai changé de boulot, j'ai été muté, j'ai envie de continuer le sport, est-ce que vous m'autorisez à changer de club ? Bon, généralement, ça pose aucun problème, le but, c'est que le sport se développe, mais on reste quand même aussi dans cette tradition-là, quoi.
Quand il y a des étudiants Erasmus qui viennent ici, c'est pareil, c'est le même protocole. Ils ne peuvent pas signer juste pour dire si je signe chez vous pendant un an. Il faut faire une demande qui soit contresignée à leur club d'origine pour qu'ils puissent porter le maillot ici. Et quand ils retournent en Irlande pendant des vacances, par contre, pareil, s'ils sont transférés ici, ils ne peuvent pas prendre le risque de se blesser là-bas. Enfin, c'est un sacré protocole.
Et donc, si on parle du club qui nous concerne aujourd'hui, vous êtes organisé comment alors ? Parce que là, donc, trésorier, président, coach, les entraînements, c'est à Daoula, c'est ça ?
Alors, il y a deux entraînements. Il y a un entraînement le lundi qui se passe sur Brest, au stade du Petit Kerzu, donc à partir de 19h. Et on a un deuxième entraînement le mercredi à partir de 19h aussi au stade de Quatmez à Daoulas.
À côté du collège, oui.
Voilà.
Combien de licenciés ?
Très précisément 27 cette année. Ouais. J'ai fait les calculs avant de venir.
Ça fait plusieurs équipes, ça, en fait. Il y a plusieurs équipes, quand même.
Non. En réalité, puisque 27, on comprend les masculins et les féminines. Mais ce qui arrive quand même régulièrement au foot gaélique, on va pas se le cacher, on n'est pas un club tout jeune non plus. On a régulièrement des gens qui ont la trentaine, passé la trentaine, donc il y a les blessures qui arrivent assez vite, et puis on peut pas être dispo tout le temps, etc. Donc nous, de notre côté, il fallait un petit peu anticiper, et on a inscrit qu'une équipe cette année, et je pense qu'on a eu raison de le faire, parce que à deux équipes masculines, ça aurait été compliqué, et l'équipe féminine, elle n'est pas complète. On n'arrive pas à avoir suffisamment de filles pour vraiment pouvoir inscrire une équipe. Et c'est un peu là l'objectif, si on peut, à court terme, d'avoir une équipe féminine vraiment du Broléon qu'on puisse inscrire en championnat de Bretagne. Pour l'instant, les filles jouent en entente. Alors, c'est une énorme entente avec Vannes, Lorient, Saint-Brieuc.
C'est une équipe de Bretagne, quoi.
Presque. En gros, il y a une entente. Et dans le championnat de Bretagne féminin, il y a une entente. Il y a Nantes et Rennes.
Oui, concrètement, vous aujourd'hui, vous organisez aussi des événements, donc parce que je crois que, enfin, Brieux, toi, tu es arbitre, donc tu voyages aussi pour arbitrer à l'international, et vous organisez aussi des compétitions. Donc, si les gens ils veulent venir vous voir, par exemple, je crois qu'au printemps, il y a des événements qui viennent là.
Ah bah samedi là.
Samedi là.
Samedi prochain.
C'est vrai, c'est le printemps.
Bah oui. Ouais,
ça y est, c'est déjà le printemps, effectivement. Donc samedi, on organise une manche de la Coupe de Bretagne. On reçoit des équipes de Nantes, de Liffré, de Quimper, de Lorient. Nous-mêmes, on va jouer. Il y aura des matchs, alors ce coup-ci sous forme de tournoi. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on jouait à 9 contre 9, mais là, ça ne va pas être tout à fait vrai. On va jouer à 11 contre 11, parce qu'en fait, on se prépare pour les finales de championnat de France, qui auront lieu le 18 juin à Bordeaux. Et ces finales-là vont jouer à 11 contre 11. Donc la Coupe de Bretagne, pour que les clubs bretons se préparent, vont jouer à 11 contre 11. Et donc là, il y aura des matchs à partir de 10h30 jusqu'à environ 18h30. Voilà, c'est entrée libre, gratuite, il y aura une buvette sur place.
Ouais, et donc ça veut dire que vous bougez pas mal aussi dans le cadre de ce sport-là. Ça implique pas mal de mobilité, de disponibilité, quoi.
Ouais, effectivement. Non, monsieur le trésorier, du coup, faut rembourser les déplacements, etc. C'est compliqué.
Il y a quelques frais de déplacement. Ouais. Mais c'est vrai que on joue dans le championnat. On est inscrit dans le championnat de Bretagne et on se déplace jusque au nord, Saint-Coulon, juste à côté de Saint-Malo, Liffré-Rennes et au sud Nantes-Guérande. Et jusqu'à ces villes-là, on est amené effectivement à se déplacer dans les autres départements. Donc, ce qui fait. Là, après, ce n'est pas des matchs tous les week-ends. Quand on joue, par exemple, au foot dans un niveau district, etc., on peut jouer tous les week-ends, tous les 15 jours, et on fait 15-20 minutes de voiture. Là, c'est vrai que c'est un week-end tous les mois, mois et demi, et on part sur la journée du samedi, quoi. C'est la petite différence.
Comment se structure le championnat en France ? Parce qu'il y a la partie Bretagne qui vous concerne, mais le reste du territoire, est-ce que ça vous arrive de rencontrer, je ne sais pas, Lyon ou d'autres équipes, quoi ?
Bah dans les, au Final France, justement. C'est,
donc c'est les meilleures équipes de chaque territoire du coup, qui s'affrontent ?
Dans différentes divisions, donc il y a championnat Bretagne et championnat fédéral, donc c'est l'ensemble du reste du territoire français. Et de ces championnats bretons et fédérales se classent des équipes en trois catégories. Et pour les finales, là, par exemple à Bordeaux, qui se jouent sur 6 ou 7 terrains, il y aura la D1, la D2, la D3 qui vont se rencontrer. Comme ça, il y a des équipes de niveau, de même niveau, qui se rencontrent pendant les finales. Ouais.
Et vous avez espoir de remporter un titre ou d'aller vous qualifier pour une compétition internationale ?
Alors, remporter un titre, oui, on a toujours l'espoir. Ça, faut y aller pour gagner. Mais en D3, nous, pour le coup. Et effectivement, c'est un peu là la seule chose qui nous reste, enfin les deux seules choses qui nous restent à jouer et où on peut avoir de l'espoir, c'est effectivement ce titre de champion de France de D3 et ensuite la Coupe de Bretagne est divisée en deux parties. Là, je vous disais tout à l'heure que nous, on organise une manche. Et derrière, il y a une deuxième manche qui va jouer le week-end prochain avec d'autres équipes bretonnes sous forme de tournoi. Et en gros, les meilleures équipes du tournoi qui aura lieu la semaine prochaine, enfin samedi à Brest, vont rencontrer les meilleures équipes du tournoi qui aura lieu à Saint-Coulon, donc le week-end suivant, etc. Et donc là, il y a grosso modo la Coupe de Bretagne, ce qu'on appelle le challenge, qui est un peu la D2. Et là-dessus, sur la D2, oui, on peut avoir l'espoir d'essayer de remporter le challenge de Bretagne.
J'avais une petite question pour le coach. Comment il prépare ses compétitions, ses moments clés là ? Dans une saison, est-ce que tu vas à la rencontre ou tu vas voir un peu ce que font les autres équipes ou...
Bon, on discute de temps en temps entre coachs quand on est sur les tournois, enfin sur les tournois ou sur les matchs, puisque à chaque fois quand on fait des matchs, on a au moins 4 équipes à tourner sur les matchs. Après, comme on est aussi plusieurs et qu'on fait sur des sites différents, c'est pas toujours évident d'avoir le même nombre de personnes. Donc on essaye de préparer au mieux à chaque fois et avec un peu de cardio et des bases de passes ou de jeux d'ensemble pour que ça se passe du mieux possible.
Et tu sens que l'équipe elle monte en température là ?
Elle monte en température, oui bien sûr, mais toujours après c'est vrai, faut pas se caché, c'est vrai qu'on a toujours plus de monde sur le site de Brest que sur le site de Daoulas. Donc moi, qui m'occupe un peu plus de Daoulas, y a les bonnes volontés qui sont là. Et ils sont là pour jouer, mais aussi pour se faire plaisir. Donc à partir du moment, c'est comme partout, même en musique, si on se fait pas plaisir, ça marche pas. Par contre, si on est ensemble et que on joue là pour se faire plaisir, on ne peut que progresser de toute façon. Et éventuellement aussi gagner le match.
Et là, je peux vous garantir, on se fait plaisir, il y a une bonne ambiance.
Ouais, parce que les matchs, ils sont pas nombreux tout au long de l'année non plus. C'est-à-dire que c'est des moments clés, c'est quoi le rythme ?
C'est à peu près un par mois, c'est ce que disait Brieux. Et donc, grosso modo, les matchs, on en fait un par mois. Le premier, généralement, est plutôt vers octobre, histoire de nous laisser quand même un mois de préparation. Et en fait, ce que disait Rod aussi, c'est... tous les joueurs peuvent voir à peu près le niveau des autres équipes qu'on va rencontrer, puisque souvent il y a 3 matchs en fait sur le même lieu. Par exemple, si on se déplace, là récemment on s'est déplacé à Quimper pour faire un match contre l'équipe de Guérande, il y avait un match avant nous, un match après, donc ça permet aussi de voir un peu le niveau des équipes qu'on va rencontrer, etc. quoi.
Donc samedi prochain, c'est aussi l'occasion pour les gens de venir vous découvrir aussi clairement. Est-ce que vous avez y a un site également pour le club où les gens peuvent aller regarder un petit peu ?
Bah alors nous, on fonctionne plutôt sur les réseaux sociaux. Ça va plutôt être le Facebook ou Instagram. Voilà, du Gaelic Football Bro-Léon.
Juste pour repréciser les infos pratiques par rapport à ce prochain match, lieu, horaire et tout ça, pour qu'on refasse...
Alors, ça se passe au stade du Petit Kerzu, à Brest. Vous ne pouvez pas le louper quand vous tapez ça sur Internet. C'est à partir de 10h30. Le coup d'envoi du premier match, c'est 10h30. Ça devrait finir aux alentours de 18h30. C'est évidemment entrée libre et gratuite. Et évidemment, il y a une buvette avec petite restauration aussi.
Et pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a un moment dans l'année où vous êtes ouvert à de l'initiation ou à des entraînements ouverts, grand public ?
À chaque entraînement. Vous pouvez venir tester, on prendra le temps, on vous expliquera les règles, etc. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir n'importe quand. On rappelle que c'est lundi 19h15 au stade du Picquerzu et le mercredi 19h à Daoulas.
Voilà, au stade de Côte-Mez.
Voilà. Et le samedi matin, c'est vrai que là, l'hiver a fait une petite parenthèse là-dedans, mais on a les jeunes, on a essayé de lancer ça cette année.
À quel âge on peut pratiquer le football gaélique ?
Dans les entraînements adultes, on part à partir de 16 ans. Et là, c'est vrai qu'on essaie de développer. On avait déjà fait il y a quelques années, ça avait pris, mais faute de bénévoles et d'encadrants, on avait dû mettre un peu le holà sur le sujet. Mais on essaie de relancer, là, depuis cette année, une section jeune les samedis matins, pareil à Côte-Mez.
À partir de 10 ans ?
À partir de 10 ans, ouais.
Sur du 16 ans. Voilà, c'est ça. Faut déjà être à l'aise avec un ballon. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, c'est à partir de CM1, CM2, ça peut marcher.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, parfait. Du coup, bon match.
Merci.
C'est avec une feuille. Le coach a déjà bossé sa feuille de titulaire, c'est bon ?
C'est pas moi qui m'occupe de celle-là, mais je pense qu'elle est déjà bien en route, ouais.
Eh bien, merci beaucoup à vous,
ouais,
et puis bon courage.
Merci pour l'accueil.
Merci.
L'EM, l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.